Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Général Vincent Desportes, bonjour.
Bonjour madame.
C'est un plaisir de vous interviewer par rapport à ce qui vous anime, donc cette passion de la stratégie, ce livre que vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob, dont le titre est « Stratégie, les essentiels ». Alors, dire que vous êtes conférencier international, vous exprimez depuis 15 ans sur la géopolitique, la stratégie et le leadership. Vous accompagnez les comités de direction et les dirigeants des grandes entreprises françaises. Vous avez publié de nombreux livres, dont Entrer en stratégie, c'était en 2019, et Devenez leader en 2023, que nous avons présenté ensemble. Alors, ce livre, est-ce que vous pouvez nous en présenter déjà le titre « Stratégie et les essentiels » ?
Merci beaucoup, madame, d'abord de me donner la parole. Alors, au fond, la question du titre, c'est la question de la raison de ce livre. Vous l'avez dit, moi je suis un passionné de stratégie, je dirais même un obsédé de stratégie, parce que j'ai été soldat très longtemps et que j'ai bien compris qu'on pouvait demander beaucoup de choses aux soldats qui combattaient pour la France, mais on ne pouvait pas le faire si on ne le faisait pas dans une manœuvre stratégique, si on ne donnait pas de sens. Et j'ai compris que tout combat, dans tout domaine que ce soit, ne pouvait pas fonctionner s'il n'était pas dirigé par la stratégie, ce qui m'a amené à passer une grande partie de ma carrière à m'occuper de stratégie. J'ai passé ma dernière affectation militaire a été le commandement de l'école de guerre, qui est l'école où on forme les généraux et les amiraux. Et donc mon rôle à ce moment-là, c'était de prendre les meilleurs officiers français et étrangers d'ailleurs, et de les amener à changer l'état d'esprit, de passer de l'état d'esprit tactique à l'état d'esprit stratégique. Et puis vous l'avez dit, moi je m'engage souvent auprès des entreprises pour parler de stratégie, pour les conseiller en stratégie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'accélération du monde, la multiplication des obligations des dirigeants font que nos dirigeants, nos responsables ont de moins en moins de temps pour faire de la stratégie. Le monde est de plus en plus astratégique, ce qui est effectivement parfaitement désolant et conduit à un certain nombre d'erreurs. C'est pour ça que j'ai écrit pas mal de livres en stratégie, vous les avez cités, et là j'ai voulu écrire un livre extrêmement dense, bref, de manière à pouvoir apporter les essentiels de la stratégie aux dirigeants ou aux différents responsables d'associations, d'entreprises, militaires, diplomates, etc., qui seraient amenés à le lire. J'ai bien compris que le problème du temps aujourd'hui est un problème permanent. Le monde va extrêmement vite pour de multiples raisons que tous vos éditeurs connaissent. Et donc, il faut donner de la compréhension rapidement, de la matière rapidement. Donc, j'ai condensé ça dans cet ouvrage qui a la prétention, et j'espère avoir réussi, à vraiment apporter tout ce qu'il faut savoir quand on veut conduire une stratégie et le faire dans un nombre limité de pages, de manière très accessible, avec des schémas, vous l'avez vu, avec des tableaux simples, pour que les lecteurs ne se perdent pas, aillent à l'essentiel et qu'ils aient un vrai progrès dans l'appréhension de ce qu'est la stratégie au service de leurs ambitions et de leurs actions.
Alors, vous avez mis en exergue de votre livre cette phrase passionnante, tout un programme, Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, Saint-Exupéry. C'est vrai que lorsque nous avons un projet en tête, tout dépend évidemment de la culture de la personne, puisque vous avez bien expliqué à la fin du livre qu'il y a la culture asiatique qui impulse une perception et une interprétation très ciblée, tandis que la perception et l'interprétation occidentale est différente. Donc, lorsque nous avons un projet en tête, nous agissons de façon, nous souhaitons agir de façon un peu impulsive, soit y aller avec foi, doute, tremblement, comme pour aller faire une œuvre d'art, avec un risque, mais vous donnez donc des clés pour parvenir à aborder cette cible qui nous importe beaucoup, c'est-à-dire atteindre le projet, atteindre la réalité de notre idée.
Alors, ce que vous dites est très intéressant. Je reprends ce que vous avez dit au départ, la citation de Saint-Exupéry, qui ne solde pas le problème de la stratégie, mais qui en dit beaucoup. Ce qu'on demande aux dirigeants, c'est pas de prédire l'avenir, parce que nul n'en est capable, évidemment, mais c'est de le vouloir et de le rendre possible. La stratégie, elle est bien au sujet de l'avenir. Le stratège est par construction même un créateur d'avenir. Ce qui amène à entrer en stratégie, et j'en parle assez longuement dans mon ouvrage, c'est ce que j'appelle le désir d'avenir. Le stratège est quelqu'un qui veut véritablement un futur et qui va déterminer les voies qui ont de grandes chances d'y conduire. Et il ne peut pas y avoir de stratégie sans une ambition clairement exprimée. Et c'est ce que je travaille dans les entreprises. Vous faites de la stratégie, mais vous devez d'abord avoir cette volonté de ce futur que vous voulez atteindre. Alors, dans la deuxième partie de votre question, vous vous dites, on a toujours tendance à foncer, hein, parce qu'on veut aller vers l'avenir. Mais justement, si on y va de manière intempestive, on n'y parviendra pas. On n'y parviendra pas, parce que la stratégie suppose une réflexion tout à fait importante. Et donc, ce que vous soulignez, c'est que à la fois, et je le dis dans mon ouvrage, le stratège est quelqu'un qui va maîtriser son impulsivité et en même temps faire confiance à son intuition. Ce sont les deux à la fois. Le stratège, c'est quelqu'un qui va prendre du recul, qui va voir dans le temps long, qui va prendre le temps de réflexion, qui va prendre le temps de la construction. Et donc, qui va maîtriser son impulsivité. Et en même temps, et je le dis dans mon ouvrage, il ne pourra jamais prendre de décision parfaitement rationnelle, puisque il ne peut pas connaître tous les éléments qui rendraient sa décision parfaitement rationnelle. Et donc, à la fin, le stratège est quelqu'un qui va décider par intuition. Et donc, on voit là le raisonnement du stratège qui, au départ, est basé sur l'intuition. Je veux aller quelque part, mais il doit d'abord s'assurer que c'est possible. Donc, on va avoir ensuite une phase de rationalité pure qui va être une phase d'analyse des circonstances, une phase que j'appelle de diagnostic stratégique pour voir quelles sont les circonstances qui vont se développer dans mon chemin stratégique. Et donc, cette phase d'analyse que je décris assez largement dans mon ouvrage, comment faire pour analyser rapidement mais correctement l'espace de temps qui va être l'espace de développement de ma stratégie, au fond, va me produire, cette réflexion va me donner deux ou trois solutions. Je ne pourrai pas avoir de solution parfaite parce qu'il n'y a pas de solution parfaite en stratégie, il n'y a pas de meilleure décision, puisqu'on ne peut, on ne pourra jamais rejouer son affaire. Donc, je vais devoir décider entre deux ou trois décisions, et là, c'est mon intuition qui va jouer. L'intuition, ce n'est pas de la devinette, c'est à la fois de la connaissance et de l'expérience. C'est pour ça que ce que vous avez dit est tout à fait intéressant. Donc, à la fois, le stratège est quelqu'un qui est très volontariste, hein, donc qui est par nature impulsif, mais qui va maîtriser son impulsion, jeter un regard stratégique sur le monde, décider des deux ou trois voies qui lui paraissent les meilleures, mais pas la meilleure, parce que ça n'est pas possible, et puis qui ensuite, grâce à son intuition, va décider du chemin critique qu'il suivra pour aller vers l'avenir qu'il veut faire sien.
Alors, vous avez parlé du regard que celui qui part à la conquête de sa cible, ce regard qu'il jette autour de l'environnement, autour dans le temps, sur l'espace, est-ce que ce regard qui est évidemment, naturellement, humainement ouvert au doute et qui cherche un point comme un tremplin pour une naissance par rapport à son projet, est-ce que, donc un point d'ancrage pour une nouvelle action, est-ce qu'il y a place dans votre raisonnement à l'improvisation comme moteur d'inspiration, une sorte d'énergie vitale qui va régénérer ma volonté de continuer?
Alors, est-ce qu'il y a de l'improvisation? Non, le stratège n'est pas quelqu'un qui improvise. Justement, c'est un peu sa caractéristique, c'est qu'il prend toujours le temps de réflexion, en sachant que sa réflexion ne sera pas parfaite et que il ne va pas improviser, mais par intuition, il va choisir entre des solutions dont je dis qu'elles seront les moins insatisfaisantes. En revanche, la stratégie, n'est pas quelque chose de fixe, mais c'est quelque chose qui est rigide. Pourquoi cela ne peut pas être fixe? C'est que, parce que mon désir d'avenir est en lui-même un pari sur le futur. Je ne peux pas savoir combien il y aura de guerres, combien il y aura de pandémies entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc je vois bien que je ne peux pas rester fixement sur mon objectif et que je dois être prêt à adapter si besoin le futur que je veux créer, mon ambition. Mais néanmoins, cela va rester relativement rigide. Mais en revanche, ce qui va être flexible et ce qui va, l'improvisation va pouvoir servir, je dirais plutôt que l'improvisation, c'est l'art de comprendre où se trouvent des opportunités et donc les capacités à saisir. Et donc, deux points sur cette affaire-là. Donc, la stratégie, elle est composée de tactiques qui sont au service et qui vont être les briques qui vont permettre de construire l'ambition. Et ces tactiques, elles, sont souples, elles sont flexibles, elles peuvent s'adapter. Mais moi, je ne retiens pas le terme d'improvisation parce que une des caractéristiques du stratège, c'est que toutes les décisions qu'il doit prendre, il ne les prend que par rapport à son futur. C'est-à-dire qu'il regarde sa décision par rapport au point d'arrivée. Et c'est le point d'arrivée qui lui donne sens. Et ce regard du présent à partir du futur est vraiment une caractéristique du stratège. On dirait en français que le stratège a une pensée téléologique. C'est-à-dire que, comme on le disait du général de Gaulle, il met du futur dans chacune de ses décisions. Donc quand je prends une décision dans le présent, je me pose toujours la question de savoir quel sera son impact sur le futur que je vais créer. Mais mieux que ça et plus que ça, une décision dans le présent ne doit normalement être conçue que comme une des pierres sur le chemin long, plus ou moins long, qui va m'amener vers mon futur. Alors, vous avez utilisé un terme qui est tout à fait important, qui est celui de doute. Oui, alors ça peut être surprenant, mais le stratège est quelqu'un qui est à la fois extrêmement volontaire et quelqu'un qui est capable de douter. De douter, c'est-à-dire capable de se remettre en cause. les décisions du stratège seront prises forcément dans l'incertitude et sur une incomplétude de la connaissance. Donc il ne peut jamais penser que la décision qu'il prend est la décision finale. À un moment donné, il prend une décision qui est relative à ce qu'il connaît, qui est relative à l'état de la science du moment et qui est relative à lui-même, ce qui est extrêmement important. Et donc, il ne peut pas se dire, voilà, ça c'est la décision. Donc, il doit toujours avoir un doute constructif. C'est le doute cartésien. On sait bien qu'on avance en science, et d'ailleurs partout, qu'à partir du moment où on doute, on est capable de remettre en cause et d'accepter la relativité à la fois de son regard et de sa décision. Donc, effectivement, le stratège a cette caractéristique qui n'est pas donnée à tout le monde, d'être capable de douter au sens cartésien du terme et en même temps capable de vouloir absolument les deux à la fois. Et on connaît la maxime des chefs d'entreprise, doutez toujours, mais n'hésitez jamais. Je doute parce que je regarde ce que j'ai décidé comme un objet qui ne m'appartient plus. Une décision que j'ai prise hic et nunc à un moment donné. Je la regarde et je sais que je vais peut-être être obligé de la modifier. Par contre, une fois que j'ai pris ma décision, j'avance, je n'hésite pas, ne serait-ce que parce que les stratèges ont en général un certain nombre de collaborateurs qui vont produire la valeur. Hein. Et ces collaborateurs, eux, ne doivent pas hésiter. Donc ce doute-là, moi je l'ai, mais je ne dois pas le transmettre à mes collaborateurs. Je reviens sur ce que j'ai dit, parce que c'est quelque chose qui est très important. Peut-être en aurions-nous parlé. Le stratège est quelqu'un, est un guide. Alors, on peut avoir de la stratégie pour soi-même, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans nos propos cet après-midi. Encore que les raisonnements ne soient pas très différents. Il est un guide. Le stratège sait, un chef d'entreprise sait que ce n'est pas lui qui produit la valeur, ce sont ses collaborateurs, ce sont les femmes et les hommes qui lui sont confiés. Et donc, j'écris dans mon livre aussi que la stratégie est une espérance partagée. Et au fond, je ne suis capable de faire fonctionner mon entité stratégique que si l'espérance qui est d'abord la mienne, j'ai une ambition, j'arrive à transmettre ma foi, j'arrive à transmettre mon espérance à chacun, de manière à ce que chacun de mes collaborateurs ait lui-même envie de ma propre envie. C'est en ce sens qu'on ne peut pas séparer la stratégie du leadership, parce que le leadership sert bien à transmettre ses propres enthousiasmes, ses propres credos à ses collaborateurs. Et c'est pour ça que vous aviez eu la gentillesse il y a 2 ans de m'interviewer sur mon livre précédent qui s'appelle « Devenez leader ». Je crois qu'on ne peut pas séparer la stratégie du leadership. Je pense qu'on ne peut pas être un grand stratège si l'on n'est pas un grand leader, puisque ce seront, une fois encore, les femmes et les hommes qui me sont confiés en petit nombre ou en très grand nombre. Prenant, par exemple, les Français de la France, ils sont en très grand nombre, guidés par la lumière qu'apporte le général de Gaulle. Et donc, qui est un très grand leader, évidemment. Et donc, on a ce lien entre la stratégie et le leadership. Oui, doute, pour moi-même, je ne le transmets pas à mes collaborateurs, à qui je transmets, au contraire, ma foi et mon espérance.
Alors, dans notre recherche à atteindre notre essentiel, que nous soyons en train d'œuvrer pour un projet personnel ou un projet collectif, puisque vous avez parlé d'une fonction de guide avec la responsabilité d'hommes et de femmes que vous guidez vers un objectif. Est-ce qu'il serait intéressant d'avoir... de cristalliser ce but qui un petit peu est un mythique tout au bout, un rêve, le cristalliser dans un slogan, dans une phrase. Est-il intéressant d'avoir une espèce de slogan en tête qui pourrait vous propulser vers cette cible?
Alors, moi, Je crois, mais c'est une discussion, madame, que je ne reprendrai pas le terme de slogan. Mm-hmm. Mais par contre, quand vous parlez de slogan, vous parlez de ce que les entreprises utilisent. Enfin, eux, les entreprises, parlent de vision. C'est-à-dire, au fond, pourquoi est-ce que j'existe ? On sait qu'une entreprise, par exemple, une armée, c'est exactement la même chose. Elle a d'une part une grande idée vers laquelle elle va, et à l'intérieur de cette idée, elle a des étapes qui sont autant d'ambitions successives qui vont être le chemin de production de cette vision. Alors, là où vous avez parfaitement raison, et je reprends ce que j'ai dit, il s'agit pour le stratège de transmettre sa foi, et sa foi dans son ambition, et de faire en sorte que son ambition devienne l'ambition de chacun. Et donc, eh bien oui, vous avez raison, il va falloir que ce qu'on appelle entreprise, cette raison d'être, ou plutôt cette raison d'y être, d'être dans le marché, comment je vais la synthétiser pour qu'elle donne envie. Et là, je crois que c'est intéressant de revenir à un grand philosophe, un philosophe hollandais, Spinoza, qui dit beaucoup de choses passionnantes, mais il dit en particulier l'homme est désir. L'homme est désir. Mmh. C'est tout à fait important. C'est-à-dire que l'être humain n'avance pas finalement de manière rationnelle, et on sait qu'aucune décision humaine ne peut être parfaitement rationnelle, mais il avance par désir. Et donc, il va falloir que le stratège, qui est donc le patron d'une entité stratégique, quelle que soit sa nature et son volume et son importance, donne du désir aux autres. Et donc, pour reprendre ce que j'ai dit, la première condition pour que ça marche, ma stratégie, il va falloir que mon désir devienne le désir des autres. Et là, on ne doit pas oublier autre chose, c'est que moi j'ai fait beaucoup de sociologie des organisations, et une des premières choses qu'on vous apprend en sociologie des organisations, c'est que l'être humain, c'est pas triste à dire, c'est comme ça, avance toujours dans son intérêt. Et donc, et son intérêt final, c'est la survie, on sait bien, on est des mammifères. Mais j'avance si j'ai intérêt à le faire. Et donc, il va falloir, au fond, que je transforme mon propre désir en intérêt pour mes collaborateurs. Et là, on est dans une espèce d'alchimie, qui est l'alchimie du stratège, qui pense que telle ambition est bonne pour lui, mais qu'elle est bonne aussi pour les femmes et les hommes qui lui sont confiés. Et il va donc falloir qu'il fasse en sorte que cette ambition, ce désir, devienne le désir des autres. Et à partir de ce moment-là, on assistera à une espèce de polarisation, c'est-à-dire que toutes les volontés humaines qui sont confiées aux chefs stratèges vont converger naturellement vers notre ambition. Et alors, au lieu d'avoir une entité stratégique remplie de volontés qui vont dans tous les sens, vers les désirs individuels, vers les intérêts individuels, alors c'est une convergence de ces intérêts qui va donner une force incroyable à mon entreprise. Et donc, il n'y aura pas de slogan. Slogan, moi, j'aime pas trop le terme, parce qu'il me paraît quelque part un peu mensonger. Mais il va y avoir une vision commune qui va transformer, qui va faire en sorte que l'ambition de commune devienne l'ambition de chacun. Et donc, oui, vous avez raison, à un moment donné, le stratège va devoir faire cet effort de synthèse pour transmettre encore une fois son espérance aux autres, parce qu'il pense qu'elle est bonne pour les autres.
Alors, général Vincent Desportes, quel regard posez-vous sur la compétitivité dans notre rage de gagner? Est-ce que ce n'est pas un dopant, un ferment précieux quand même?
Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de stratégie sans compétition. Ouais. Je dis dans mon ouvrage, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages, fait beaucoup de conférences de stratégie, et ma synthèse, alors on peut dire le contraire, mais je ne crois pas. Au fond, les deux raisons d'entrer en stratégie, il n'y en a pas 40. Il n'y en a pas 40. La première, c'est cette volonté d'aller ailleurs, cette volonté d'avancer vers une ambition. Et donc, je ne peux pas faire de stratégie si je n'ai pas clairement identifié mon ambition, mon point d'arrivée, à partir duquel, je l'écris dans mon livre, je vais pouvoir rétro-raisonner. Je vais rétrapoler le futur pour le ramener vers le présent, ce qui me permettra de définir mon chemin critique. Mais le deuxième élément, c'est qu'il y a des volontés libres autour de moi que je ne peux pas ni contrôler, ni contraindre complètement. Je donne un exemple. Si je suis seul dans mon univers stratégique, je n'ai pas besoin de faire de stratégie, je fais de l'optimisation des ressources et il me suffit d'un bon tableau Excel. Pourquoi suis-je condamné à faire de la stratégie? C'est parce que je veux aller quelque part et qu'il y a autour de moi, ce qu'on appelle dans l'entreprise, des parties prenantes externes à l'entreprise et des parties prenantes internes à l'entreprise qui n'ont pas naturellement le même projet que moi. Et donc, ça, ce que vous venez de dire, nous indique une caractéristique profonde de la stratégie, c'est que la stratégie est toujours une compétition. Et qu'à la fin, je dois être meilleur que l'autre. La stratégie, il ne faut pas avoir l'esprit d'examen en stratégie, il faut avoir l'esprit de concours. Il faut avoir, évidemment, une combativité, parce que je vais progresser dans un univers qui sera assez chaotique et j'aurai beaucoup de problèmes à régler. Donc, il va falloir que je veuille me battre, effectivement. Et en même temps, il va falloir que j'ai la gagne. Le stratège est quelqu'un qui a la gagne, qui veut arriver au point d'arrivée avant l'autre. Dans une course de voile, si vous faites un déplacement de voilier tranquille pendant vos vacances, vous ne faites pas de la stratégie, vous faites de la technique de voile, vous faites de l'optimisation des ressources. Mais dès lors que vous êtes deux et que l'un veut arriver en tête dans une course, eh bien là, vous êtes obligé de faire de la stratégie. C'est-à-dire que vous allez devoir intégrer les intentions et les volontés des autres dans votre propre raisonnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'un raisonnement stratégique ne peut pas être parfaitement rationnel au sens cartésien du terme. Parce que vous allez devoir prêter des intentions aux autres concurrents, aux autres parties prenantes, et votre stratégie sera finalement basée sur la compréhension de ce que veulent les autres et de la façon dont ils entendent y arriver. C'est pour ça que la stratégie, c'est un exercice compliqué, dans la réflexion sur les autres est absolument fondamental. Sans autre, il n'y a pas de stratégie. Le premier élément, l'élément fondamental, quand je réalise mon diagnostic stratégique, c'est bien les autres. Qui sont les autres? Que veulent-ils? Et comment ont-ils l'intention de parvenir à leurs propres objectifs?
Alors, dans cette idée de stratégie, dans cette rampe qui nous guide vers notre objectif, est-ce que il doit y avoir nécessairement une composante de nature éthique, empathique. Virgule. Est-ce que nous pouvons envisager le combat jusqu'à la guerre? Et pour finir, est-ce que finalement la composante auto n'est pas un préfixe plus motivant, vous l'avez dit, pour capter cette énergie qui nous mènera vers le succès, vers la cible?
Vous avez raison de poser la question de l'éthique. Alors, évidemment, moi-même, je réfléchis beaucoup aux problèmes d'éthique, aux problèmes de morale. C'est ce qui nous fait des êtres humains, pas des bêtes. Donc, c'est évidemment extrêmement important. Mais quand je fais des conférences de stratégie, c'est une question qui m'est souvent posée. Et je dis, eh bien, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas parce que la stratégie et d'ailleurs le leadership sont amorales. Il n'y a pas de morale là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez utiliser la stratégie pour le bien ou pour le mal. On peut être un stratège pour le plus grand mal. Je pense évidemment, par exemple, à Adolf Hitler, mais il est stratège, évidemment. Au moins jusqu'au 10 mai 40, il est stratège, mais il est un stratège pour le mal. Et puis, vous pouvez être un stratège pour le bien. Alors face à lui, par exemple, on a Charles de Gaulle au même moment, qui veut reconstruire une France libre et qui le fait pour le bien des Français, tel qu'il l'estime. Et donc, on a bien une stratégie, mais l'une pour le mal et l'autre pour le bien. Et quant au leadership, c'est à peu près la même chose. Vous allez utiliser à peu près les mêmes méthodes pour conduire les collaborateurs ou les subordonnés vers le bien ou vers le mal. Et ça pose la question, quand est-ce que je manipule et quand est-ce que je fais du management et en stratégie, la question vaut, si vous voulez. Et je pense, ma réponse à moi, elle est pas, il peut y avoir d'autres réponses, mais ma réponse, c'est que je manipule si je fais quelque chose dans mon intérêt propre et non pas dans l'intérêt de ceux à qui je m'adresse. J'ai le droit d'utiliser un certain nombre de moyens pour amener mes collaborateurs à faire un certain nombre de choses si j'estime que ce que je les amène à faire va dans leur propre intérêt. Voilà. Mais en ce qui concerne les moyens, eh bien, que ce soit en stratégie ou en leadership, les moyens ne soient pas très différents que vous alliez vers le mal ou vers le bien. Donc, je dirais que ce sont des méthodes ou des matières qui n'ont rien à voir avec l'éthique. C'est dans la tête du dirigeant qu'on va faire de la stratégie pour le bien ou pour le mal. Ensuite, vous posez une autre question. C'est, je parle, vous avez raison, longtemps dans mon ouvrage, d'abord de la façon dont le leadership est un pilier indispensable de la stratégie, et comment le préfixe auto joue dans cette affaire-là. Mm-hmm. Moi, j'ai été leader très longtemps, un chef militaire, j'ai dirigé des femmes et des hommes pendant au moins 35 ans au long de ma carrière militaire. Et ce que j'ai compris assez rapidement, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez pas obliger les gens à vous obéir, vous ne pouvez pas les motiver, vous ne pouvez pas les responsabiliser. Ils n'obéiront que s'ils le ressentent comme dans leur intérêt. Ils le seront motivés. Vous ne pouvez pas les forcer à se motiver. Vous ne pouvez pas leur donner du sens. Il faudra que ça fasse sens pour eux. Vous ne devez pas les motiver. Vous devez créer les conditions de l'automotivation. Vous ne pouvez pas responsabiliser vos collaborateurs, vous devez créer les conditions de l'auto-responsabilisation. Et donc, ma question, le problème, c'est toujours de faire ce pas à côté et se dire quelles conditions dois-je créer pour que mes collaborateurs aient envie de s'engager. Et je le rappelle, une des premières conditions, c'est que finalement, qui les amène à s'engager pour quelque chose qu'ils pensent être dans leur propre intérêt. Donc oui, ce préfixe auto est tout à fait important. J'en profite pour rappeler que tant le stratège que le leader est quelqu'un qui crée des conditions. Je dis en stratégie, il n'y a pas de résultat en stratégie, il n'y a que des résultats. Je crée quelque chose dont la résultante sera mon chiffre d'affaires ou les bits de mon d'entreprise. En leadership, c'est pareil. Je crée les conditions qui vont faire que mon espérance va devenir l'espérance des autres. Donc oui, je crée les conditions. Je crée des conditions de l'automotivation, de l'auto-responsabilisation, de l'auto-collaboration. Parce que les femmes et les hommes que je dirige sont des êtres humains profondément libres. Nous disons, nous, militaires, que la seule discipline qui vaille, c'est la discipline librement consentie. Et c'est comme ça que nous dirigeons dans les armées. Nous faisons comprendre à nos collaborateurs que finalement, la discipline est non pas au service de leur chef, mais à leur propre service.
Est-ce qu'il est aussi important dans notre conquête de projets et de cibles, est-ce qu'il est important d'envisager à terme de renoncer, c'est-à-dire savoir raison garder, ne pas aller vers une issue qui néfaste? Et vous citez le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Et il y a aussi Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas, tiré du livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire vanité des vanités, tout est vanité. Donc, partir avec la flamme, avec le rêve, avec la cible comme une flèche, mais savoir raison garder et pouvoir rétrograder vers la raison.
Alors vous avez parfaitement raison. Un des pièges tendus aux stratèges, c'est l'hubris. C'est de se dire, je suis tellement bon que quoi qu'il arrive, je vais réussir. Et quand vous regardez les stratèges, on peut penser à Churchill avec une élection de trop, on peut penser à De Gaulle avec une élection de trop, on pense à Napoléon avec une ou deux campagnes de trop, etc. À la fin, le stratège est convaincu qu'il peut continuer, qu'il gagnera. On peut penser à un cas très présent aujourd'hui, c'est le cas de la guerre en Iran où le président américain est livré de son succès au Venezuela, se dit au fond, ça y est, moi je domine, je peux faire, je gagnerai. Et il se lance dans la guerre en Iran, très sûrement en ayant conduit une analyse stratégique très insuffisante qui fait que, eh bien, aujourd'hui, il est quand même un peu piégé. Et oui, c'est pour ça qu'on en revient à cette idée, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on est stratège à un moment, on ne le sera pas tout le temps, on est stratège parce que à un moment donné, le stratège est en adéquation avec son écosystème, avec son temps, il comprend la jeunesse, il comprend la société, et donc il prend de bonnes décisions. Et donc, il y a un moment donné, vous n'êtes plus en adéquation, et il faut arrêter. Alors, donc il faut avoir cette sagesse, donc il faut avoir ce bout dont on a déjà parlé. Alors, quand s'arrêter ? C'est évidemment une vraie question, parce que j'ai dit tout à l'heure que le stratège était également un volontariste qui ne peut pas se laisser arrêter par le premier obstacle. Mm-hmm. C'est pour ça que le stratège doit être lucide, et le stratège est un homme de discernement. Mm-hmm. Et donc, il a toujours du recul. Il ne se laisse pas enivrer par son succès, mais il a toujours ce temps de recul qui lui permet de comparer les risques courus au succès possible, qui vous fait voir qu'il y a un détroit d'Ormuz, par exemple, quelque part au Moyen-Orient, et que vous pouvez vous retrouver piégé. Et c'est pour ça qu'un grand général, amiral américain, l'amiral Nimitz, qui mène la campagne du Pacifique sur l'océan Pacifique entre 42 et 45, parlait lui de risques mesurés. C'est-à-dire que le stratège doit prendre des risques. La stratégie, c'est prendre des risques, c'est faire des paris, puisque je ne suis jamais sûr de mon résultat et jamais sûr de l'espace dans lequel va se développer ma stratégie. Mais je regarde ce qu'il est raisonnable de perdre éventuellement. Je ne fais pas n'importe quoi. Le stratège est tout sauf une tête brûlée. C'est un homme qui a du recul, qui est responsable et qui a ces qualités de discernement dont je viens de parler.
Général Vincent Desportes, c'est un livre magnifique, tout simplement précieux, qu'il faut lire et relire et puis essayer, non pas d'emmagasiner quel projet ambitieux, mais il y a beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup d'idées, beaucoup d'intelligence. Je rappelle donc ce livre, Stratégie, les essentiels, que vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes.
Merci, Jean-Madame.
Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.